fait, mais ça n'est pas ce que vous pensez. En tout cas, c'est dit autrement. Merci, mesdames.
C'est la fin du Féricob Club.
Quand je dis anarchie, je dis pas anarchisme. L'anarchie, c'est la négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. Je pense que c'est aussi noble que l'amour.
Bye bye.
Guette le retour de son homme. Il la trompe, elle le sait, depuis longtemps déjà. Il lui ment, elle se tait, tant qu'on n'en parle pas. De gamin bien élevé, dis bonjour, sois poli, cherche pas à discuter, fais ce qu'on dit, obéis. Profession bien assise, nom de famille Schweitzer. En arrière-plan, la crise, faut se défendre en affaires. Devant le chef, dos courbé, oui monsieur, mais bien sûr, avec les subordonnés. Faut parfois être dur, si l'on veut s'élever, faut écraser des doigts. C'est connu, c'est un fait, tant qu'on n'en parle pas. Un apéro pas deux, en sortant du bureau, la terre est-elle en feu, mon pastis est tout chaud. De la moyenne, nom de famille Schweitzer, sportif en fin de semaine, gradé au militaire. Le dimanche matin, église en costume gris, rasé de frais bon teint. Relations et amis, horizon borné par les Alpes et le Jura, on se tue quelque part tant qu'on n'en parle pas. Mais de côté pour les vacances et les impôts, protégés, assurés, on ne l'est jamais trop. Saint de corps et d'esprit, nom de famille Schweitzer, on est du même pays, mais tu n'es pas mon frère.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, nous sommes le mercredi 24 mai 2023. Vous écoutez Au fil des pages, vous êtes sur Radio Libertaire. Merci de nous rejoindre sur ces ondes qui sont, en tout cas je l'espère, vos ondes favorites ou parmi vos ondes favorites. suite. Notre émission, eh bien, elle est proposée par aujourd'hui Frédéric, Dominique, Francis, Marie qui va nous rejoindre et nos invités Julia Ferloni, co-commissaire de l'exposition Barvalo au MUCEM à Marseille, et nous l'espérons, Nelly Debar, membre de la commission des experts de l'exposition, qui a quelques soucis en ce moment avec la maire des Sainte-Marie-de-la-Mer, donc elle aura peut-être des difficultés pour nous joindre. Alors, après, on est dans une période un petit peu tendue, là, parce que le mois de mai, ben, on a eu un certain nombre de luttes dans les mois précédents. On a eu, et puis depuis ben, le 21 mai, on est quand même quelques-uns à s'en rappeler, depuis le 21 mai, nous célébrons malheureusement l'entrée des troupes versaillaises dans Paris par la porte de Saint-Cloud et les massacres qui vont perdurer pendant toute une semaine, la semaine sanglante. Dominique nous en parlera à l'occasion d'un roman et Marie nous en parlera en présentant la vie d'une grande militante de la commune, notamment une anarchiste, Nathalie Lemel. Alors, avant de parler de nos lectures, Frédéric, avons-nous des annonces ?
Tout à fait. En effet, les 12 heures pour l'anarchisme, le samedi 3 juin, au lycée autogéré de Paris, 393 rue de Vaugirard, métro Porte d'Orléans. Donc, des diffusions de Tancred Ramon... C'est Versailles, Porte de Versailles, pardon. Donc, vous retrouverez ceci, les détails du programme, parce que c'est une grande journée. À partir, l'accueil se fait à partir de 9h30, possibilité de repas dessus, jusqu'à 22h30, des projections, débats, autour des films de 4 volets de Tancred Ramonet. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter notre blog Commune de Paris, fédérationanarchisteoverblog.com ou éventuellement le site L'Agenda Militant Indépendant où nous avons déposé tout le programme en ligne. Voilà, je repasse la parole à Francis.
Très bien, merci. Alors effectivement, c'est bien la porte de Versailles. Vous pouvez éventuellement aussi descendre à Convention, puisque en fait le lycée autogéré est à quasiment équidistance entre la porte de Versailles et le métro Convention. Alors, bon, nous allons, comme d'habitude, parler de pas mal de bouquins. Et pour ouvrir le débat, c'est toujours le premier temps de l'émission, nous avons pour thème... les luttes et les souffrances. Alors vous allez me dire, on est gâté, et malheureusement oui. Et par exemple, eh bien, si nous parlions du Kurdistan, c'est d'actualité. Malheureusement, nous présentons souvent des livres sur cette région du monde et ce peuple, si souvent trahi par toutes les puissances institutionnelles, fait l'objet en ce moment de violence. Et est-ce que le régime turc qui va sortir des urnes, malheureusement, bah, je crains que... est-ce qu'il va changer les choses ? Est-ce qu'il va changer sa politique ? Je crains que non, malheureusement, en raison, justement, de l'alliance entre Erdogan, qui n'est pas un démocrate fanatique, et puis des ultranationalistes. Je pense que, malheureusement, le peuple kurde va encore en subir les conséquences. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un livre, je voudrais présenter un livre sur une femme, une poétesse emprisonnée, pour avoir chanté dans sa langue. Son nom, Nudem Durak. Alors, en avril 2021, Erdogan, le président turc, lâche une nouvelle fois ses troupes sur les villages kurdes qu'il accuse de protéger des terroristes. Un vieux classique plus qu'usé dans tous les pays du monde. Les maisons sont incendiées, les jardins, les arbres fruitiers détruits, des femmes, des enfants, des vieillards souffrent et meurent. Les hommes fusillés, torturés, 4000 villages ont été rasés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont kurdes. Nous avons souvent parlé dans cette émission donc d'ouvrages relatifs au Rojava. Mais là, je voudrais présenter un livre consacré à cette jeune femme qui sera condamnée à 19 ans de prison parce qu'elle chante son peuple, sa terre, sa culture. Alors, Joseph Andras vient de publier cet ouvrage, Nudem Durak, la poésie au service d'un peuple, aux éditions Ici-Bas. Nudem fait donc partie de ces prisonniers politiques qui compose 20% des détenus en Turquie. Nudem est devenue une artiste très appréciée dans sa ville et dans sa région. Et dans une lettre à Andras, à l'auteur là, de ce livre, Joseph Andras, elle écrit « Je suis ici pour avoir, ici en prison, pour avoir chanté. La musique et l'art sont à mes yeux des idéaux et je ne fais jamais marche en arrière avec mes idéaux. La musique est la vie et je dois vivre cette vie. » Et elle n'est pas que poétesse, chanteuse. Elle développe une réelle conscience politique. Je cite « Voilà la réalité. La femme kurde est exposée à l'oppression, à la violence, à la culture d'extorsion et de pillage des hommes. Tout ceci a été imposé à notre pays depuis la naissance de l'État, à travers tous les mécanismes qui le fondent. Ses premières victimes ont été les femmes. Enfant, je percevais déjà le désespoir de la femme. Dans tous les aspects de l'existence, celle-ci, lorsqu'elle n'est qu'une petite fille, n'a aucun droit. Elle est humiliée, marginalisée, séparée de ses rêves, poussée à l'autodestruction par toutes sortes de méthodes assimilationnistes et traitée comme une citoyenne de seconde zone. Ce n'est pas tant notre peuple que les lois de l'État, ces hommes, les collaborateurs et les enseignants qui produisent cette situation. » Le texte est éclairant sur ce que subissent les femmes dans ce pays. Alors, comment peut-on trouver dans ce livre des propos de Nunem Durak? Ben, tout simplement. Tout simplement parce que Joseph Andras alterne des chapitres de son propre cru qui expliquent la situation géopolitique, décrivent le Kurdistan, rapportent des témoignages avec des textes issus d'un projet de livre, à peu près 70 pages, que Nudem a pu écrire en prison avec pour titre « La note de la liberté ». Vous avez compris que la note de la liberté, ce n'est pas une note de synthèse de concours, c'est la note do ré mi fa sol la si do. Et là, c'est très intéressant parce que on voit bien la culture de cette femme, on voit bien comment elle veut traduire les souffrances et comment elle veut traduire l'aspiration de son peuple, d'elle-même, mais de son peuple. Et alors, malheureusement, soignée dans des conditions déplorables, sa santé et sa voix s'altèrent. Alors attention, elle ne demande pas de pitié. Elle veut la justice et la liberté pour son peuple. Rien ne serait pire que d'implorer la pitié d'Erdogan, là où ces femmes exigent la dignité, comme le souligne l'une de ses anciennes détenues. Pour ceux qui ne connaissent pas ou mal cette répression permanente, vous découvrirez des pages éclairantes. Malheureusement, le désintérêt des Occidentaux qui préfèrent discuter avec Erdogan pour des raisons de stratégie internationale. Rappelons par exemple que les autorités françaises n'apprécient guère les Kurdes et qu'après s'en être servis pour lutter contre les islamistes, ils font l'objet de contrôles, voire d'attentats comme celui de décembre 2022 contre le centre culturel kurde à Paris. Et le parquet antiterroriste, apparemment, n'a pas cru bon de mener une enquête. Il suffisait de déclarer le responsable des faits, tout simplement fou, et hop, on passe à autre chose. J'aime beaucoup cette démarche de l'auteur qui appelle l'attention du lecteur sur le peuple kurde et sa situation actuelle avec une approche plus spécifique sur la vie d'une femme, symbole de la lutte des femmes kurdes. Oui, son seul crime, comme le dit son père, c'est d'avoir chanté. Joseph Andras, Nudem Durak, sur la terre du Kurdistan, aux éditions Ici-Bas, 2023. Je vous propose d'écouter un chant traditionnel kurde. Alors, puisque nous parlons des luttes, eh bien, revenons sur la lutte menée par l'IRA. L'armée républicaine irlandaise, j'ai déjà abordé ce livre dans la chronique du Monde Libertaire en ligne, la rubrique des idées et des luttes, voici une quinzaine de jours maintenant. Et je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Alors, en effet, pendant plus de 30 ans, l'Irlande du Nord a été le théâtre d'une guerre sans équivalent dans l'histoire de l'Europe contemporaine. Une guerre sans siège, sans bataille, sans bombardement aérien. Voilà par ces mots Daniel Finn qui a introduit son livre « Par la poudre et par la plume, histoire politique de l'IRA » publié en 2023 chez Agon. Plus de 3500 morts, 48 000 blessés. Des souffrances insoutenables, des tortures, des fusillades, des deuils. Oh, ces événements paraissent lointains. Bloody Sunday 1972. Les accords de Vendredi Saint 1998. Depuis, ces accords signés par les différents protagonistes, dont l'IRA, l'armée révolutionnaire irlandaise, républicaine, pardon, et les troupes unionistes, l'observateur discret pourrait considérer que la paix est réalité en Irlande. Pourtant, les immenses drapeaux surmontant les grillages, divisant les villes, comme celle de Belfast, avec d'un côté le drapeau britannique, de l'autre le drapeau irlandais, les portes blindées des quartiers, fermées la nuit, les fresques célébrant les combattants et les victimes, d'une part et d'autre, les échanges avec les habitants démontrent une tension perceptible. À Derry, surtout pas à Londonderry, la domination protestante est physique, urbaine. Le quartier protestant, aux immeubles anciens et cossus sur la colline, surplombe les quartiers catholiques en contrebas, où les fresques rappellent notamment le massacre causé par l'armée britannique. 17 morts lors d'une manifestation pacifique, Bloody Sunday. Parfois aujourd'hui, la presse se fait l'écho de déceptions et de rancœurs, d'absence de respect des engagements. Est-ce que cela pourrait repartir ? Alors c'est tout l'intérêt du livre, c'est de comprendre cette guerre en expliquant ce qu'est l'IRA, un acteur qui a quand même compté jusqu'à 10 000 membres, avec une adhésion des catholiques irlandais, à défaut de la hiérarchie catholique, une réflexion politique avec une part d'idées socialistes, même si le fait communautaire est fondamental. Et ça remonte dans l'histoire. Vous lirez les passages parce que on ne peut comprendre cette guerre, on ne peut comprendre ce conflit que si on se replonge dans l'histoire qui a débuté au début du XVIIIe siècle. Évidemment, on peut remonter avant, mais au début du XVIIIe siècle avec un dénommé Wolfton. Alors, et l'IRA qui apparaît en 1919. D'un autre côté, alors d'un côté, on a des protestants qui sont dominateurs économiquement et politiquement. De l'autre côté, on a des catholiques dans les secteurs ouvriers. Et il y a une répression très forte, violente. Le gouvernement britannique n'a pas d'autre solution apparemment que la répression. Et ça va aller très loin. Rappelez-vous le gouvernement de Margaret Thatcher qui laisse mourir Bobby Sands le 5 mai 1981. Il mène une grève de la faim. On peut s'en sortir par le haut. Margaret Thatcher préfère laisser mourir en disant non. Elle savait, c'est vraiment la Madame No. Bon. Et l'Irlande du Sud, elle reste d'une prudence de loup. Et puis la situation évolue. Jerry Adams est élu président du Sinn Féin en 1983. La façade légale de l'IRA, les négociations commencent. En 1994, on annonce le cessez-le-feu des deux côtés. Et maintenant, la question que pose Daniel Finn, c'est bien la question de quid de la situation sociale. Et comme il dit, les habitants attendent avec impatience des progrès tangibles sur les sujets sociaux qui les ont portés initialement vers le Sinn Féin, comme la santé et le logement. Et vous avez peut-être vu, si vous suivez l'actualité, que le week-end dernier, le Sinn Féin a gagné les élections locales en Irlande du Nord. Alors, suivons cela pour voir ce qui va en résulter. Donc, je rappelle le titre du livre, un excellent livre, Daniel Finn, Par la poudre et par la plume, Histoire politique de l'IRA, aux éditions Agone, 2023, et je ne pouvais pas, moi qui ai eu l'occasion d'aller à Derry et de voir sur les lieux où il y a eu ce massacre épouvantable du Bloody Sunday, eh bien, je souhaite que nous écoutions le Bloody Sunday interprété par John Lennon. Frédéric.
The people there to cry the 30 mark.
Alors nous avons écouté une version remasterisée 2010 de Bloody Sunday. Alors un de nos auditeurs nous a téléphoné là pour nous demander très aimablement de recommuniquer à lui et à tout le monde bien sûr les références de l'ouvrage de Daniel Finn F-I-2-N, Par la poudre et par la plume, Histoire politique de l'IRA aux éditions Agon, et ça vient de sortir en 2023. Par la poudre et par la plume, Histoire politique de l'IRA, édition Agon. Eh bien, maintenant, présentons un petit ouvrage consacré à Monsieur Nansen. Monsieur Nansen, tout le monde connaît ce nom adossé à la formule « passeport Nansen ». En fait, qu'a-t-il fait pour les apatrides ? Et d'abord, qui est-il ? Alors, étonnant et complexe personnage que ce monsieur Nansen, cet explorateur du pôle Nord qui sauva des milliers de vies, celles et ceux qui avaient tout perdu. Alexis Génie nous présente une biographie sous forme romanesque, tout en restant exact sur le fond. Donc le titre, Le passeport de M. Nansen, est un ouvrage des plus passionnants à lire. Il a été publié en 2022 aux éditions Paulsen. Alors, il est vraiment intéressant, tant pour les passionnés des explorations, vous verrez qu'il y a tout un passage sur le Groenland, je vais en parler dans un instant, que pour les défenseurs des droits de l'homme. Il faut préciser que Nansen est un individu à qui tout réussit. Il est champion de ski, il est scientifique hors pair, il est photographe génial, il est explorateur, il brille dans tout ce qu'il touche. Mais il est aussi champion du monde de patinage. Il dessine admirablement, bon, on va peut-être arrêter là, et il acquiert une notoriété nationale, la Norvège. En effet, il traverse à pied, à ski et à pied, le Groenland, ce qui, à l'époque, est une prouesse physique, puis il tente d'atteindre le pôle Nord. Pierre Kropotkin, un de nos vieux copains, qu'on cite souvent sur cette antenne, le qualifiera de héros. Avec de tels succès, que devenir une forme d'ennui, de mélancolie, l'étreint ? Et la seconde partie de sa vie est tout aussi étonnante. En effet, à 40 ans, il renonce à s'attaquer au pôle, après avoir quand même tenté le pôle sud. Alors il évolue vers l'humanité. Les affres de la Première Guerre mondiale le désolent. Il suit les travaux de la Société des Nations, la SDN. Il organise le rapatriement des prisonniers, porte un secours désintéressé aux populations de l'URSS totalement affamées. Ce sont les populations qui ont fui le régime soviétique qui l'inquiète. Elles n'ont plus de patrie. Elles sont hors des nations. Évidemment, l'URSS, Lénine ne veut plus en entendre parler. Les autres pays s'en moquent et regardent ailleurs. Et les apatrides sont privés de passeport. Alors, Nansen crée ce passeport qui porte son nom en 1922 et il devient une sorte de consul international. Ce document ne donne pas un titre, mais une existence. Eh oui, une existence. Chagall, Rachmaninoff en ont bénéficié. Tout comme les Grecs d'Asie mineure, les Arméniens ottomans. Hannah Arendt montre très bien dans son livre « Nous autres réfugiés » le drame de ces personnes. La perte du lien au collectif qui fait la nature humaine. Ce bout de papier sur lequel est écrit en gros caractères son nom, eh bien ce bout de papier sauvera, comme je l'ai dit, des milliers de vies. Et oui, il suffit parfois d'un brin de volonté, de naïveté aussi, de soutien, de gens désintéressés pour devenir un vrai héros. Oh, en 1922, il reçoit le prix Nobel de la paix, sans l'avoir sollicité. Et surtout, Nansen n'est pas un homme politique, il n'est pas un diplomate. Il meurt en 1930 et son nom reste sur ce document, le passeport Nansen. Alexis Génie, Le passeport de Monsieur Nansen aux éditions Paul Sang, 2022. Vous retrouvez évidemment l'ensemble des coordonnées de l'ensemble des références des livres que nous citons parfois un peu rapidement, j'en conviens, sur le site du blog Commune de Paris du groupe qui fait partie de la Fédération anarchiste. Frédéric, un petit peu avant de parler de comment dirais-je de l'exposition Barvalo sur les gens du voyage, un petit peu de musique des gens du voyage. Alors, nous allons pouvoir échanger maintenant sur la deuxième partie de notre émission avec Julia Ferloni. Julia Ferloni, vous êtes en direct là, vous nous entendez ?
Oui, bonjour.
Ah, bon, parfait, merci, bonjour. Bon, ça a été un peu difficile pour échanger puisque vous avez lancé l'exposition et elle a lieu depuis le 10 mai jusqu'au 4 septembre au MUCEM. Donc, on est vraiment en plein dans l'actualité là, hein, ça marche ?
Ah bah oui, ça marche, on est ravis de voir... Bon, c'est pas très sympa pour ceux qui font la file d'attente parfois sous la pluie, mais on est ravis de voir que l'exposition, au bout de quelques jours d'ouverture, 14 pour être précise, remporte un tel succès. Et on espère que ça va se continuer jusqu'au 4 septembre et sa fermeture.
Ah, donc vous êtes sous la pluie, alors que nous, à Paris, on est sous le soleil. Ça nous change quand même.
C'est pour ça que je vous l'ai dit, c'est pour que vous puissiez vous dire « Ah, bah, finalement, il n'y a pas que le sud qui est toujours sous le soleil. »
Alors donc, vous êtes conservatrice du patrimoine au MUCEM.
Oui.
Et vous êtes responsable du pôle artisanat, commerce et industrie.
Oui.
Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, vous êtes l'une des commissaires de l'exposition qui s'appelle Barvalo. Alors, bon, tout d'abord, Barvalo, qu'est-ce que ce mot signifie ?
C'est une bonne question. Barvalo, en fait, c'est un mot en langue romani. Et l'exposition, parle des populations romani, c'est-à-dire les Roms, les Sintés, les Manouches, aussi un certain nombre de voyageurs français. Et donc, cette langue romani, on voulait la mettre en avant dans l'exposition avec ce mot qui incarne vraiment l'essence de l'expo, c'est-à-dire riche et fier, puisque
donc
c'est
déjà,
un adjectif.
Excusez-moi, Julia, pour la, enfin
oui.
Moi je, enfin j'ai pas tout à fait découvert, mais c'est rare d'entendre parler de la langue romani. Donc c'est, il y a une langue, il y a des langues. Qu'est-ce qui se passe ? Comment
alors,
ça fonctionne ?
Alors il y a une langue qui est standardisée, qui est enseignée à l'université. Il y a une littérature romani, des auteurs, des poètes, mais la langue romani, elle est aussi parlée dans dans différentes variantes selon les pays. Donc, d'accord, il y a une forme standardisée, si vous voulez, et puis, selon les endroits où on se trouve en Europe, des manières différentes de l'employer.
Et alors, le mot barvalo, je vous ai interrompu.
Oui, c'est un adjectif donc qui signifie riche, au sens de richesse physique, mais aussi spirituelle, et par extension, qui a fini par désigner la fierté, en fait, être fier.
Et je crois que c'est une des premières fois qu'une telle exposition est présentée dans un musée, un peu, j'allais dire, sous forme institutionnelle. C'est pas une exposition en plein air ou autre, c'est vraiment institutionnel.
Ah oui, on est un musée national des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Et en tout cas, dans notre musée, c'est la première fois qu'on présente une exposition sur ce sujet. Il y en a eu d'autres en France. Mais ce qui fait notre particularité, c'est que cette exposition, elle est entièrement co-construite de A à Z, de l'exposition au catalogue, en passant par la programmation culturelle, la communication, enfin, tout a été co-construit avec des représentants des différentes communautés romanies.
Mais alors pourquoi est-ce que vous avez songé à cette expo et particulièrement au MUCEM ?
En fait, c'est un peu le hasard qui a fait que... un an après l'ouverture du musée, parce que nous avons fêté nos 10 ans dans 2 semaines, donc venez avec nous souffler les bougies à Marseille, il y aura plein d'événements le week-end du 3-4 juin. Donc quelques mois après l'ouverture du musée, un anthropologue américain, Jonah Steinberg, a écrit pour dire, il venait de visiter le musée avec sa famille pour dire « je comprends pas, vous êtes le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, il n'y a rien sur la plus grande minorité ethnique d'Europe ». Que sont les populations romanies, comment ça se fait?
Combien de personnes?
On estime à 10 à 12 millions le nombre de personnes d'origine romanie. C'est un peu aléatoire parce qu'il y a dans certains pays comme en France où on n'a pas de quota ethnique. Et puis souvent, on ne dit pas qu'on est d'origine romanie parce que après on est victime d'anti-tsiganisme. Et voilà, on ne le dit pas forcément. Donc les estimations, vraiment, c'est une fourchette, vous voyez, de 2 millions près.
Alors, mais c'est l'Europe, l'Europe de l'Union européenne ou bien c'est l'Europe plus large
De l'Union européenne, mais c'est vrai que par exemple, il y a une très très forte communauté rome installée depuis plusieurs siècles en Turquie, par exemple.
Eh oui, bien sûr. Alors, donc, vous avez dit tout à l'heure que cette expo, cette personne qui vous y a fait penser. Le fait que ce soit au MUCEM, est-ce que vous n'êtes pas les héritiers du Musée des Arts et Traditions Populaires ?
Si, tout à fait, c'est bien nous.
Et donc, ça pourrait être dans cette lignée-là, c'est cohérent ?
Alors, le Musée des Arts et Traditions Populaires, c'était quand même un musée consacré au patrimoine français, patrimoine voilà, des sociétés françaises. Du coup, à l'origine, le MNATP, donc le Musée National des Arts et Traditions Populaires, c'est un petit peu intéressé aux populations d'origine romanie, mais vraiment sous l'angle français et sans vraiment, à part dans les années 60 où il y a eu un anthropologue qui était associé, enfin du laboratoire du CNRS qui était associé au musée et qui a un petit peu travaillé sur les populations roms et voyageurs en France. Sinon, le musée s'est pas vraiment intéressé aux populations romanies jusqu'à très récemment.
Et alors, vous, l'exposition, vous l'avez construite de manière participative. J'ai lu le catalogue qui est vraiment très, très intéressant.
Merci et bravo de l'avoir lu. Oui, en fait, on s'est dit que c'était impossible que Jonah et moi, donc cet anthropologue dont je vous ai parlé, ne soyons que deux d'origine non romaine à parler des populations romanies. Donc, on s'est dit que c'était important voilà, de leur donner la voix et puis aux représentants des différentes populations. Mais aussi que c'était bien que ce soit pas communautariste et qu'il y ait aussi des experts qui connaissent le sujet parce qu'ils sont militants mais d'origine non romanie et qui donc vivent au quotidien la réalité de ces populations ou qui sont des chercheurs sur le sujet. Donc en tout, on s'est retrouvé à 19 à co-construire ce projet, mais dans les 19, 5 d'entre nous étaient co-commissaires, c'est-à-dire aux manettes, puisque nous transcrivions muséographiquement tout ce que les 14 experts nous racontaient, nous disaient. On leur demandait qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, comment représenter les populations romanies en Europe. Et donc, on traduisait ça en langage muséographique, voilà, tous les 5.
Et comment avez-vous choisi ces experts ?
On a passé 2 ans à constituer ce comité en voyageant en France et en Europe, à rencontrer des chercheurs, en rencontrant des militants, qui d'ailleurs souvent étaient et militants et chercheurs. Et puis, au fur et à mesure, on a pu constituer ce groupe avec voilà des représentants de Hongrie, de Roumanie, de Pologne, d'Italie, de France, évidemment. Et puis voilà. Donc, on a un de nos experts qui est d'origine syrienne. Donc voilà, on a vraiment essayé d'avoir un maximum de points de vue différents, pour qu'on soit aussi riche que possible, comme le nom de l'exposition l'indique, et donner la voix à un maximum de perception de ce que c'est qu'être romanie aujourd'hui.
D'accord. Alors, comment se présente l'exposition ?
Elle se présente en plusieurs séquences. La première va être une séquence historique, qui va retracer un millénaire de présence en Europe, donc de grosso modo du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Puis on va avoir une transition qui sera constituée de voilà, qui veut faire ressentir aux visiteurs ce que c'est de vivre dans l'antitsiganisme au quotidien, et qu'on se rende compte que partout autour de nous, que ce soit dans la presse, sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les objets qu'on utilise au quotidien, on est environné d'antitsiganisme et on ne se rend pas compte. Puis ensuite, il y a une partie qui se veut à la fois critique et absurde, pour tendre aux visiteurs un miroir qu'on appelle le musée du Gadjo. Voilà, Gadjo, c'est l'autre dans pour les populations romanies, c'est le non-romanie. Et ensuite, on finit l'exposition avec une galerie de portraits de célébrités ou de personnes un peu moins célèbres d'origine romanie de toute l'Europe, pour montrer cette fierté à contribuer à la diversité culturelle de nos sociétés européennes.
Alors, c'est intéressant, cette notion de renversement du regard avec le musée du Gadjo. Le Gadjo, c'est qui ? C'est nous ?
C'est les personnes qui ne sont pas d'origine romaine.
Voilà.
C'est une installation qui a été faite par Gaby Jiménez, qui est un artiste français qui fait partie de notre groupe d'experts, et qui a donc retranscrit ce qu'on a mis dans nos échanges, parce qu'on a travaillé donc pendant 4 ans avec nos experts sous forme de séminaires et de webinaires quand il y a eu le Covid et le confinement. Et donc Gaby a retranscrit ça avec sa patte artistique et aussi son sens de l'humour, parce qu'on s'était dit que comment faire au mieux ressentir l'absurdité des préjugés qu'on peut avoir à l'encontre d'une population, c'est peut-être en montrant ce qu'il y a d'absurde à mettre derrière des vitrines de musées une population. C'est un peu comme si on disait, si on devait parler des Français, on mettrait un gars avec un béret, une baguette de pain. S'il vient de Paris, il fait la tête. Enfin, il est pas content. Là, ça, c'est un petit tac pour Paris.
Oui.
On a dit qu'il faisait beau chez vous, donc voilà.
Et puis, midi, il a un pastis à la...
Ouais. Exactement, et une boule de pétanque à la main.
Voilà.
Et si on présentait les Français de cette manière, est-ce qu'on serait juste ? Moi, je peux vous dire que je vis à Marseille, j'ai pas d'accent, je ne joue pas à la pétanque et je ne bois jamais d'alcool. Donc, je ne rentre pas dans ce cliché-là. Mmh. Donc, voilà, on voulait que nos visiteurs se rendent compte que c'est absurde de catégoriser des gens des traits culturels essentialisants. Et donc, on l'a fait de manière absurde et humoristique pour aider notre visiteur à réfléchir à ce qu'il voit dans un musée, en disant « En fait, ce que je vois dans un musée, c'est un point de vue et je peux le contester, je peux ne pas être d'accord avec ce que je vois. »
Donc, il y a l'interactif avec le visiteur.
Exactement. En fait, le musée du Gadjo ne fonctionne que s'il a des visiteurs dedans.
D'accord. Mmh. D'accord, d'accord. Alors, comment expliquez-vous ce rejet à l'égard des romanies ?
C'est un rejet qui est vraiment très, très anciennement ancré et qui est en fait la peur de l'autre, finalement, qui est une peur qui a toujours existé. Il faut savoir que quand les populations romanies sont arrivées en Europe, au début, on les a accueillis à bras ouverts, parce qu'il y avait ce petit côté exotique. Ils étaient dans la cour des princes et des grands de ce monde. Ils faisaient partie
aussi
des armées.
Ça remonte à quand, ça, quand même ? Ça remonte, parce que on les a accueillis à bras ouverts. Mais quand, d'ailleurs, on pourrait peut-être faire un petit rappel historique de l'arrivée de ce peuple ?
Alors, si on s'accorde justement sur cette langue romanie, les origines linguistiques tendent à prouver que l'origine romanie, elle se situe autour du 9e siècle après Jésus-Christ en Inde. Et puis, pour une raison qu'on ne connaît pas, différentes populations sont parties, se sont installées entre la Turquie, la Grèce, l'Arménie. Ils sont restés un certain temps. Puis ensuite, ont commencé à progresser s'installer en Grèce continentale et à progresser en Europe. Et tout ça tout au long du Moyen-Âge pour arriver finalement au XVe siècle en Europe de l'Ouest et continuer à s'installer partout en Europe à ce moment-là. Et donc très vite après la fascination, là je vous parle vraiment pour l'Europe de l'Ouest, la fascination passée, ben on les a très vite rejetés pour des raisons qui souvent ne sont pas rationnelles en fait. C'est juste ils sont différents, ils parlent une langue qu'on ne comprend pas, ils ont la peau sombre, on les associe à des musulmans, certains d'ailleurs viennent de pays musulmans, ils ont fui. Donc pour toutes ces raisons, voilà, on les reçoit de moins en moins bien. Et puis, les États vont édicter énormément de lois pour soit les sédentariser de force. C'est l'esclavage en Roumanie pendant 5 siècles.
Oui, ils ont été esclaves en Roumanie. Ça, je ne savais pas ça.
Oui, oui. En fait, vous étiez Rome. Forcément, vous étiez esclave. D'ailleurs, aujourd'hui, le mot « tigane » en Roumanie est insultant. Parce que donc, ça désigne les tziganes et c'est un synonyme d'esclave.
Ah ben donc, moi j'avais eu l'occasion d'aller en Roumanie il y a très longtemps, en 93, et je voyais bien de la part de la population roumaine le mépris à l'égard des Roms, mais on leur balançait pas des cailloux, mais c'était à deux doigts quand même.
Ce mépris est toujours là, mais il y a fort heureusement des militants, des hommes et des femmes politiques roms qui se battent pour leurs droits et qui veulent qu'on revalorise et qu'on s'intéresse à leur juste valeur aux populations romanies et qui vivent en Roumanie.
Alors on les a rejetés notamment en France, mais on a su les utiliser quand même pour les envoyer au front pendant la Première Guerre mondiale, vous le montrez bien avec des photos tout à fait éclairantes dans votre catalogue.
Oui, c'est tout le paradoxe en fait. Quand d'un côté on les a traités comme des exclus, par exemple en 1912, invention du carnet anthropométrique qui les fiche comme des malfaiteurs, hein, même les enfants, les nouveau-nés, etc. Donc on a le carnet anthropométrique qui va surveiller leurs moindres déplacements, mais à côté de ça, ils se battent pendant les guerres mondiales, on montre effectivement dans l'exposition, ils sont décorés pour bravoure, etc. Donc à la fois ils sont patriotes et protègent leur pays, mais on s'en méfie comme de la peste. Donc c'est vraiment tout un paradoxe, et c'est aussi le mérite d'avoir travaillé de manière collaborative, parce que nous, au début, on mettait vraiment l'accent sur l'antitiganisme et la victimisation, et nos experts d'origine romanie ont dit « mais en fait, on n'est pas que des victimes, nous sommes aussi des héros, des résistants, des patriotes », et donc c'est eux qui ont insisté, à raison, pour qu'on présente dans l'exposition ce visage-ci aussi des groupes romanis qui vivent en Europe et notamment en France.
Alors, en début d'émission, je présentais un livre consacré à une jeune poétesse kurde qui est emprisonnée en ce moment dans les geôles d'Erdogan et qui revendiquait non pas de la pitié, mais revendiquait de la dignité et la force dans le combat. Et là aussi, c'est ce que vous évoquez, c'est les Romanis demandent d'être reconnus comme tels, comme pour ce qu'ils ont fait, quoi. Ouais.
Exactement. Et c'est bien pour ça que l'exposition s'appelle Barbalo. C'est une revendication.
Oui, ils sont fiers de ce qu'ils sont.
C'est une fierté, exactement.
Alors, on l'oublie trop souvent, mais pour rester en France, en tout cas, ils subirent aussi un épouvantable... Enfin, en France et puis en Europe, ils subirent un épouvantable génocide qu'on appelle Samu Daripen,
oui. Samu en langue roumanie, ça veut dire le meurtre de tous. Et c'est effectivement cet holocauste est assez méconnu encore malheureusement, les chercheurs, les historiens sont toujours en train de travailler dessus. On n'a pas le nombre exact de victimes du génocide, on a une fourchette à nouveau, on pense que c'est autour de 500 000 personnes, mais on ne sait pas bien. Il reste encore des charniers à découvrir, des lieux d'internement, de concentration, d'extermination.
Alors on oublie,
les archives sont un peu manquantes aussi.
Oui, on n'oublie pas de dire que c'est à l'initiative du régime nazi. Hein.
Bien sûr, régime nazi, mais tous les régimes qui ont collaboré ont aussi s'en sont donné à cœur joie. On parlait de la Roumanie tout à l'heure, les Roms ont été déportés en Transnistrie.
Oui, oui.
En France, ce qu'on appelait les nomades ont été internés dans des camps parfois mixtes, parfois juste pour eux, et que dans la plupart des cas, ces camps ont été libérés après la fin de la guerre, en 1946.
Est-ce que dans le camp des Milles, on avait des tziganes ou des...
Le camp des Milles, je ne suis pas sûre. En revanche, plus proche de Marseille, par exemple, parce que les Milles, c'est à côté d'Aix-en-Provence.
Oui.
Le camp de Salier, à côté d'Arles, était un camp 100% nomade. Et d'ailleurs, hier, c'était la commémoration annuelle en mémoire des internés du camp de Salier, donc à Salier.
Alors, il y a une autre date symbolique, c'est celle du 16 mai 1944.
Mm-hmm.
Alors, ça correspond à quoi, cette date ?
C'est la date au cours de laquelle, à Auschwitz, le camp tzigane d'Auschwitz s'est soulevé. C'est un acte de résistance. C'était le seul camp, en fait, d'Auschwitz dans lequel des familles entières n'étaient pas séparées, mais mises ensemble. Et donc, voilà, les familles se sont soulevées. Bon, évidemment, la rébellion a été écrasée, mais c'est un acte de résistance qui est assez héroïque. Et qui est du coup célébré tous les 16 mai.
On peut quand même souligner l'héroïsme de ces... un héroïsme du désespoir, mais un héroïsme tout de même. On se rend compte, le 16 mai 1944, il n'y a pas de débarquement en Normandie, il n'y a encore moins de débarquement dans le sud de la France, il n'y a que l'avancée des troupes soviétiques, et ça va durer encore pendant un an. Et les troupes, les tziganes se révoltent contre un système, et ils vont être tous écrasés.
Oui.
Ouais.
Oui, oui.
Alors, en France, on en a regroupé, vous avez évoqué un camp dans le sud de la France, et puis dans le catalogue, on voit le camp de Mulsanne, dans la Sarthe, là où aujourd'hui, oui, je crois qu'on a installé un golf.
C'est ça. Et en fait, l'artiste photographe Valérie Leray, qui est elle-même petite fille d'internée, a été photographiée dans une série qui s'appelle Places with No Name, donc des places sans nom, les anciens camps d'internement en France, pour montrer qu'on ne garde aucune mémoire de cet internement. Donc effectivement, le camp de Mulsanne dans la Sarthe, aujourd'hui c'est un golf. Le Barcarès, c'est une plage qu'elle donne à voir. Je ne sais plus, j'ai un doute, un trou, mais il y a un autre camp qui aujourd'hui est un collège. Donc en fait, il y a assez peu de mémoire de je vous parlais du camp de Salier. Aujourd'hui, Salier, c'est une rivière. Le camp a été dynamité juste après le tournage du Salaire de la peur de Clouzot. Et depuis, il n'y a plus rien. Et il y a juste, en, je crois, 2008 ou 2006, une petite sculpture qui a été mise sur le bord de la départementale pour commémorer l'enfermement des familles. Mais voilà, et la France n'a demandé pardon et reconnu son implication qu'en 2016.
Alors, vous évoquez des photographes, on évoque depuis le début de notre échange le catalogue. Alors le catalogue est effectivement d'une grande richesse, avec en plus des textes bilingues. Donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir comparer texte en français, texte en roumanie. Expliquez-nous les particularités de la langue romanie.
Christian Padouret, qui est notre traducteur et qui faisait partie de notre groupe d'experts et qui est linguiste à l'université de Bucarest, vous en parlerez mieux que moi. Mais cette langue, en fait, elle s'est construite comme toute langue, en fait, au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure et ce qui explique aussi les diversités régionales du romani, dont je vous parlais en début d'entretien, en fonction des endroits où les groupes romani se sont arrêtés. Et donc, il y a beaucoup d'arméniens dans cette langue, du grec, je vous ai dit aussi, il y a aussi beaucoup de roumains, voilà. Et donc, chaque variante, ça a intégré des mots du pays dans lequel ils vivaient. Mmh. Et voilà, donc c'est une langue, comme je vous l'ai dit, qui est standardisé, et nous, c'est la version standardisée qu'on a voulu mettre en avant dans le catalogue.
D'accord. Alors, vers la fin, justement, de ce catalogue, qui donc a une magnifique iconographie, ça vraiment, j'invite les auditrices et les auditeurs à le découvrir, il a été édité aux éditions Anna Moza.
Tout à fait. De super éditeurs, on les remercie.
Oui, on en parle souvent de cette maison d'édition parce qu'elle est sympathique et puis elle est dynamique, elle fait du bon travail. Alors on découvre.
Et engagée. Ça fait plaisir aussi.
Oui, tout à fait. Nous, ça ne nous dérange pas sur Radio Libertaire.
Oui, je sais. Mais moi, je suis contente de pouvoir dire que ça fait du bien de travailler avec des collègues engagés.
D'accord, très bien. Alors, on découvre des artistes. Alors, bah, évidemment, il y a le célébrissime Django, mais il y a des domaines très variés et des artistes beaucoup moins connus.
Oui, alors vous faites allusion à une commande qu'on a faite à l'artiste roumain Emmanuel Barica en fin d'exposition et qui est reproduite en partie dans le catalogue. On a fait une galerie de portraits et alors ça n'a pas été facile de choisir une cinquantaine de personnalités romanies, hommes et femmes de toutes les époques, mais quand même pas mal centrées sur le XXe et le XXIe siècle et qui ont contribué et contribuent à notre diversité et richesse culturelle européenne. Donc évidemment, on pense tout de suite à la musique, qui est quand même un domaine d'excellence. Donc effectivement, il y a Django Reinhardt, il y a le membre des Gypsy King, il y a Manitas de Plata. Mais on voulait pas non plus se cantonner à la musique, et puis surtout pas à la musique à laquelle on s'attend. Donc on a aussi des rappeurs du groupe Taribad Island dans l'exposition. On a aussi le chanteur de pop folk bulgare Aziz. Mais on a aussi des avocats, des médecins, des prix Nobel d'ailleurs de médecine, des sportifs de haut niveau, des artistes plasticiens et plasticiennes, des créateurs aussi de haute couture, tout un panel de personnalités, d'hommes et de femmes politiques évidemment, d'eurodéputés ou de députés dans leur pays. Donc voilà, on voulait vraiment montrer cette diversité-là.
Oui, et vous avez notamment, ils sont représentés dans les instances européennes, vous parliez des eurodéputés, et là j'ai l'impression que les instances européennes semblent les écouter, et pas simplement les entendre.
Oui, les écouter, effectivement, mais ça fait déjà plusieurs décennies qu'ils sont écoutés. Et il faut aussi noter qu'un organisme comme l'ERIA, qui est le European Roma Institute for Arts and Culture, qui est à Berlin et qui est co-commissaire de l'exposition, est né aussi en 2017 de cet intérêt de l'Europe, et notamment du Conseil de l'Europe, pour les communautés romanies, conscientes de l'importance de les faire rayonner, notamment à travers leurs arts et cultures.
Bon, alors ça a l'air d'avancer. Est-ce qu'ils parviennent à s'intégrer dans les fonctions publiques, à créer des entreprises ?
Oh bah oui, évidemment. Oui. C'est juste que comme tout le monde, ils n'aiment pas dire « Vous savez quoi ? Je suis Rome et je suis chef d'entreprise. » Moi, ils disent « Je suis chef d'entreprise. » Donc, oui, ils sont... Bah, rien que dans notre galerie de portraits, on a plusieurs chefs, au féminin comme au masculin, d'entreprises qui ont remporté un franc succès, mais auxquels on n'aurait pas pensé comme étant d'origine romanie. D'ailleurs, alors, l'exemple le plus représentatif du « Ah, je ne savais pas qu'il était rome », Charles Chaplin n'a jamais fait état du fait qu'il était rome, parce que c'est aussi considéré comme un handicap quand même dans la vie. À part si vous êtes musicien, franchement, dire « je suis rome » ou « gitan », c'est rarement bien vu.
Ah, ça, j'ai vraiment découvert que Chaplin était rome, oui, tout à fait.
Voilà, et sa famille commence à communiquer sur le sujet depuis peu. Donc, preuve aussi que finalement, ce côté fierté, revendication du fait d'être d'origine romanie commence à porter ses fruits, puisque si des gens comme ceux de la famille de Chaplin commencent à dire « bah oui, en fait, grand-papa était rome », c'est bien que maintenant, on peut le dire et ça n'est plus mal perçu.
Donc, il faut aller voir cette exposition.
Évidemment.
Julia, alors, les horaires, les lieux, comment fait-on pour y aller ?
Alors, le Mucem, qui est au bout du Vieux-Port à Marseille.
Et donc, oui.
Vous sortez de la gare Saint-Charles et vous pouvez même y aller à pied.
Oh, oui.
Sinon, en transport en commun.
La
et
Joliette.
Nous sommes ouverts, le métro, le métro Vieux-Port, tout simplement. Vous sortez de là pour visiter jusqu'au 4 septembre notre exposition. Nous sommes ouverts de 10h à 19h actuellement, tous les jours de la semaine, sauf le mardi.
Eh bien, c'est parfait. Merci, Julia. Nous allons, je l'espère, pouvoir échanger après un peu de musique avec Nelly Debar, mais je sais qu'elle est très prise avec les Saintes-Maries de la Mer et notamment la mère des Saintes-Maries de la Mer. Donc, on va voir. Mais en tout cas, merci. Je vous souhaite un beau succès pour cette exposition et les autres. N'hésitez pas à nous recontacter quand vous avez des éléments nouveaux. Au revoir. Merci.
Au revoir, merci beaucoup.
Frédéric, un petit peu de musique. Allô, Nelly Debar.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, écoutez, on a la chance d'être en ligne avec vous parce que je vois un petit peu la presse là en ce moment, c'est pas évident. Alors, je rappelle simplement que vous faites partie des gens du voyage, vous avez fait partie aussi de cette commission d'experts qui a travaillé sur l'exposition Barvalo. Et là, on en parlait à plusieurs reprises, là il y a eu la grande manifestation au Sainte-Marie de la Mer. Comment ça se passe là en ce moment?
Ben là, bon, aujourd'hui, bon, c'est la procession de Sainte-Sara.
Mm-hmm. Alors vous nous rappelez Sainte-Sara? Qui est-ce?
Sainte-Sara, c'est la servante de Sainte-Marie Jacobée et Sainte-Marie Salomé qui sont venues par la mer au Sainte-Marie de la Mer pour évangéliser les Camarguais.
D'accord. Et donc, tous les ans, à la même période, vous organisez un pèlerinage qui rassemble beaucoup de monde?
Oui, énormément de voyageurs, mais depuis centaines d'années. Hein, voilà. Et des Camarguais, des Provençaux, et un peu plus, on va dire, un peu plus récemment, ce qui date pas, qui date des années 1935 à peu près, beaucoup de touristes.
Oui. Alors, vous avez eu un rôle important dans cette exposition. Qu'est-ce que vous avez apporté à cette exposition?
Ben, quand Julia justement m'a contacté pour l'exposition, je trouvais l'idée qui était très très bien, mais j'ai demandé si on pouvait apporter justement ce côté historique des voyageurs qui ont fait la guerre, qui ont fait les guerres.
Oui.
Qui sont engagés dans le maquis, qui ont été internés et jusqu'à nos jours, quoi, les gens qui, les voyageurs, qui travaillent de nos jours, voilà.
En fait, votre intégration dans la société française, ce qu'on disait avec Julia avant, c'est que, enfin, avant notre entretien là, c'est que les hommes ont été envoyés au front pendant la Seconde Guerre mondiale, que vous créez des entreprises, vous êtes dans la fonction publique d'ailleurs, vous êtes des artistes, il y a une intégration et pourtant il y a encore une forme d'anti-tziganisme, hein, c'est ce qu'on constatait. Et alors, comment ça s'est passé là sur les Saintes-Maries de la Mer là? Comment s'est déroulé les quelques jours? Parce que j'ai vu que ça avait l'air de chauffer un petit peu.
Ben, déjà pour revenir du début, c'est vrai qu'il y a des voyageurs qui ont été envoyés au front, mais il y en a qui se sont engagés volontairement. Il y en a qui ont pris le maquis volontairement, qui sont engagés après dans dans l'armée volontairement. Mmh. Il n'y a pas que ceux qui ont été obligés aussi, oui. Beaucoup d'ailleurs. Voilà. Et les Saintes-Maries, ça fait deux années de suite là que, oui, on sent remonter ce qu'on appelle l'anti-ziganisme. Hein, parce que ça fait deux ans que la mairie des Saintes-Maries nous enclave, en fait. On est parqués. Les gens, parce que c'est la seule manifestation de l'année, hein, et il y en a beaucoup au Sainte-Marie, hein, où on met des barres de béton, des grandes barres de béton, à toutes les rues adjacentes au centre-ville.
Pourquoi faire ?
Où il y a des gendarmes qui, je sais pas comment, qui douanent, qui ne laissent rentrer telle ou telle voiture et pas tel ou tel camion. Voilà.
D'accord.
C'est, on le ressent, oui, comme du racisme, parce que c'est vraiment c'est vraiment ciblé sur les gens du voyage.
Et ce pèlerinage va se dérouler pendant combien de temps encore ?
Le pèlerinage s'arrêtera demain avec la procession des Sainte-Marie-Jacobée et Sainte-Marie-Salomé. Mmh. Et un pèlerinage qui commence du 19 mai jusqu'au 25 mai.
D'accord. Et après, les gens du voyage vont repartir dans différentes destinations. Ils ne restent pas, ou très peu aussi. Il y a encore des gens voyage qui restent sur les Sainte-Marie.
Non. Mmh. Le pèlerinage des Sainte-Marie de la Mer, c'est le pèlerinage qui, on va dire, qui débute la saison, où on commence où on se retrouve pour pas mal de familles, où on prévoit de faire des baptêmes ou des communions. C'est avant tout un lieu de pèlerinage.
D'accord.
Si s'il y a un marché au Sainte-Marie de la Mer, bon, depuis une vingtaine d'années, c'est un marché qui regroupe tous les étals sur la place des Gitans. Place des Gitans qui a été donnée par le marquis de Baroncelli aux Gitans. Hein. C'est pour ça qu'elle s'appelle la place des Gitans.
Oui.
Avant, les voyageurs déballaient leur stand devant les caravanes. C'est-à-dire que le marché se faisait sur toute la commune des Saintes-Maries de la Mer.
D'accord. Mmh. Ouais. Et là, vous allez repartir, et puis on en avait parlé ensemble pour préparer cette émission. Il y a un souci qui est permanent en France, ailleurs sans doute, mais en France, c'est la question des aires d'accueil. Où en sommes-nous des aires d'accueil ? Est-ce que, bon, évidemment, il n'y en a pas suffisamment. Où en est-on ?
Quand on repart des Saintes-Maries de la Mer, tout le monde se disperse un petit peu. Mmh. Mais surtout dans le sud de la France, on est loin d'être dans des proportions suffisantes dans les aires d'accueil. Et en plus, quand il y a des aires d'accueil, il y a plusieurs, avec les EPCI, plusieurs communes peuvent se mettre ensemble maintenant pour faire des aires d'accueil depuis quelque temps.
Oui.
Mais quand plusieurs communes se regroupent pour faire des aires d'accueil, il diminue, si telle commune doit faire 20 places et telle commune doit faire 20 places, on fait une place pour une aire d'accueil pour ces deux communes, et bien au lieu d'avoir 40 places, il y en a 30.
Et bien voilà.
Donc automatiquement, il y aura toujours des places qui vont manquer. Et puis il y a beaucoup d'aires d'accueil, comme ça, notamment Samenée à Marseille, qui doit être réhabilité, alors que ça fait des années qu'on dit qu'il ne faut pas réhabiliter, il faut changer, parce qu'elle est à côté de la terrasse et des eaux, elle est à côté de la voie rapide, elle est sur un terrain inondable, si je me trompe, elle est au-dessus, il y a une ligne haute tension qui traverse carrément l'aire d'accueil. Et voilà, les aires d'accueil, de toute manière, on a l'habitude de le dire, et ça se vérifie très facilement. Si vous ne trouvez pas l'aire d'accueil, cherchez la déchetterie.
Oui, j'ai vu ça dans le...
Il n'y a pas grand-chose qui évolue, ou quand ça évolue, c'est vraiment très lentement.
D'accord, oui, ça c'est vrai, je l'ai lu dans le catalogue, la formule peut prêter à sourire, mais malheureusement c'est la réalité, et c'est ce qui empêche en partie l'intégration dans le système social, dans le système de santé, dans le système aussi scolaire, quand les enfants sont éloignés des écoles, c'est pas évident pour les gamins.
Oui, c'est pas évident pour les parents également.
Et oui.
Quand il y a un véhicule que les parents doivent aller travailler le matin de bonne heure, les enfants ne peuvent pas faire des kilomètres dans la nuit, parce que le matin c'est assez bonne heure quand même, et le soir, l'hiver, en période scolaire, en général il fait nuit de bonne heure. les enfants ne peuvent pas faire des kilomètres à pied pour se rendre à l'école.
D'accord, oui.
Et problème qui est accentué parce qu'on arrive, on a de plus en plus de difficultés à inscrire les enfants au CNED.
Oui, 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 tout à fait. Alors, oui, parce que
quand on cherche une autre solution qui peut se cumuler les deux, hein, parce que les enfants au CNED peuvent aussi aller à l'école publique sans gros problème. Hein. Mm-hmm. Mais au moins, ils auraient pour certains, sont sortis du système scolaire. Et parce que les parents voyagent trop et que les enfants n'ont pas été réacceptés au CNED.
Alors, ces éléments, cette expérience dont vous nous faites part, les problèmes qui sont les problèmes des gens du voyage, sont développés dans l'exposition. Mais l'intérêt de l'exposition, c'est qu'elle refait tout un parcours historique. Elle montre la dimension sociologique et puis elle montre ce que sont les gens du voyage aujourd'hui dans notre société. J'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de monde qui venait à cette exposition.
Oui, j'ai appris ça hier. Il y avait déjà plus de 5000 visiteurs.
Là, c'est pas mal. Hein? Ouais, hein? Bon. Oui. Bon, écoutez, je vous remercie, Nelly, pour ce petit échange un peu court, j'en conviens, mais bon, l'émission, elle est réduite. Donc, je vous souhaite un beau succès pour cette exposition et que les gens puissent découvrir cette culture très riche et puissent, c'est la vie qui est la vie des gens du voyage, que les gens se connaissent mieux. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup à vous. Merci.
Au revoir. Frédéric, un petit peu de musique. Alors, nous avons entendu avec plaisir, mais c'est trop court malheureusement, de la musique tzigane. Je vous invite vraiment à découvrir cette musique, c'est un plaisir. Alors, nous allons passer au troisième temps de l'émission, Varia, un moment d'histoire. Et je l'ai dit en début d'émission, eh bien, le 21 mai 1871, les troupes versaillaises pénètrent dans Paris, massacrent plus de 17 000 parisiennes et parisiens. L'une d'entre elles, une parisienne, va s'échapper, Nathalie Lemel. Elle sera néanmoins arrêtée. Marie va nous présenter une brochure qui lui est consacrée. Alors Marie, qui est Nathalie Lemel?
Alors Nathalie Lemel, eh bien, elle est issue d'une famille de corroyeurs basée à Landerneau, donc en Bretagne. Et donc, elle est scolarisée. Je commence par le début. Elle est née le 24 août 1826, donc à Brest. Elle est scolarisée jusqu'à l'âge de 12 ans, ce qui pour l'époque n'est pas si mal, et entre ensuite en apprentissage dans un atelier de reliure où elle y rencontre Adolphe Lemel, qu'elle épouse en 1845. Donc après plusieurs années passées à Quimper en tant que gérant d'un magasin d'une librairie reliure, le couple déménage à Paris en 1861 avec ses quatre enfants. Nathalie Lemel travaille en tant que relieuse dans divers ateliers du 14e arrondissement. Elle y revendique ses positions en faveur des droits des ouvriers. Après sa rencontre avec Eugène Varlin en 1865, elle fait de ses convictions un véritable engagement militant en adhérant à l'AIT, puis en étant élue membre de
l'AIT,
la
commune. L'AIT, tu peux nous rappeler ?
Oui, Association Internationale du Travail, bien sûr. elle est également élue donc, en 1866 membre de la commission administrative de la Société d'épargne et de crédit mutuel des ouvriers relieurs de Paris. Donc ça, c'est une société qui a été créée à l'initiative de Eugène Varlin. En 1868, elle s'investit dans la gérance de La Marmite, qui est une société civile d'alimentation dont le but est de fournir une alimentation saine et bon marché à tous les travailleurs. Et c'est probablement à cette même année qu'elle se serait séparée d'Adolphe Lemel. Fidèle à la cause ouvrière et féministe, elle participe activement aux événements de la Commune de Paris, en fondant aux côtés d'Elisabeth Dmitrieff l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Cette union œuvre beaucoup en faveur du syndicalisme et de l'égalité entre les travailleurs et les travailleuses, pour l'égalité entre les hommes et les femmes de manière générale. Nathalie Lemel ne cesse d'appeler et d'encourager les femmes à prendre les armes aux côtés des hommes pour défendre Paris contre les Versaillais durant la semaine sanglante, notamment. Elle réussit à échapper à la violente répression exercée contre les communards lors de ces 8 jours assez sanglants et atroces. Et en fait, elle est arrêtée le 21 juin 1871, le moral dévasté et terriblement affaibli. Elle aurait probablement tenté de se suicider d'ailleurs, un jour avant son arrestation, d'après les sources que nous avons. Et elle a été soignée à l'Hôtel Dieu jusqu'en 1872. Elle sera ensuite jugée et elle reconnaîtra tous les faits qui lui sont reprochés, donc d'avoir participé au club communard, d'avoir également participé donc à la construction des barricades, enfin tout ça, elle le reconnaît. Et petite anecdote, elle reconnaît aussi avoir quitté son mari parce que il ne la rendait pas heureuse, parce que c'était l'époque où le divorce n'était bien sûr pas légal. Voilà, donc ensuite, elle est condamnée à la déportation et elle embarque le 10 août 1873 aux côtés de Louise Michel et de 149 déportés en direction de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Elle y restera jusqu'en juin 1979 avant d'être rapatriée en métropole. Et une vie assez rude l'attend à son retour. Mais la déportation n'aura pas eu raison de son militantisme, car Nathalie Lemel participera aux hommages rendus à Auguste Blanqui, Eugène Varlin. Elle passera donc les dernières années de sa vie à se battre, entre autres, donc pour l'amnistie des communards, pour plus de démocratie, toujours aussi pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc elle meurt le 8 mai 1921 à l'hospice d'Ivry-sur-Seine, dans une grande misère. Elle a 95 ans, elle est aveugle, mais son parcours est vraiment impressionnant.
Elle est un peu dans la même lignée que Victorine Brochet, que toute une série de ces femmes communardes qui se sont battues, qui étaient sur les barricades.
Tout à fait.
Elle est vraiment
admirable. À la différence de Louise Michel, elle n'a pas laissé de mémoire ou d'écrit. Ça, c'est vraiment tout ce qui est... Enfin, c'est vrai que Yannick Laja fait vraiment un gros, gros boulot.
Alors, qui est Yannick Laja ?
Il est historien, breton. Oui. Et donc, il n'est pas le seul à avoir écrit cette brochure, mais il y a fortement contribué. Il est membre de l'Association des Amis de la Commune de Paris. Et donc, effectivement, il a bien démontré tout ça dans cette brochure. Et aussi, Nathalie Lemel a continué de retour de sa déportation à communiquer avec Louise Michel, bien sûr, à correspondre avec elle. Elles ont gardé des bons contacts jusqu'à...
Voilà. Alors, donc, avec les, avec Yannick Lajat, on connaît la qualité des textes d'Yannick, donc on n'a pas de souci. La brochure est vraiment très intéressante, très lisible, très riche et très précise. Une petite petite précision, c'est que c'est Nathalie Lemel qui va convaincre Louise Michel de passer du blanquisme à l'anarchisme. Nathalie Lemel était anarchiste avant Louise qui était blanquiste. Donc, on rappelle simplement, comment trouver cette brochure sur Nathalie Lemel ?
Elle est en vente à l'association des Amis de la Commune de Paris, donc au 46 rue des 5 Diamants. On la trouve également sur le site internet des Amis, où la commande peut se faire directement depuis le site. Rappel du titre, Nathalie Lemel, une militante exemplaire, donc parue au premier trimestre 2023.
D'accord. Et évidemment, pour ceux qui seront à la montée au mur du 3 juin, vous trouverez cette brochure et d'autres brochures de l'association des Amis de la Commune. Alors, on est en pleine commune. Nous allons peut-être avoir Dominique en ligne.
Oui, je suis bien là.
Dominique, ben voilà. Alors, toujours sur la commune, tu nous présentes un livre au titre curieux, La peau du dos.
Oui, de Bernard Chambaz, aux éditions du Sous-Sol.
Oui. Qui est Bernard Chambaz ?
Alors, c'est un agrégé d'histoire, romancier, poète, né en 1949 à Boulogne. Alors, il a publié énormément. Il y a 11 recueils de poésie, 12 essais sur des sujets comme le foot, le vélo ou l'art, 5 récits de voyage, 3 récits et 10 romans. Et il a obtenu le prix Goncourt du premier roman en 1993 pour L'Arbre de vie, ainsi que de nombreux prix. Donc, c'est un auteur vraiment très prolifique.
Alors, là, le thème de ce livre.
Alors, c'est une histoire fictive, parce qu'on n'est pas sûr qu'elle ait eu lieu entre deux hommes de 30 ans qui vont se rencontrer dans les sursauts de l'histoire, tous deux exaltés par leur passion. Alors, Auguste Renoir, passionné par sa peinture, on le surnomme le peintre du bonheur, et Raoul Rigaud, passionné par les valeurs de la République et de la Commune. Alors, l'un sera très connu, et l'autre tombera un petit peu plus dans les oubliettes de l'histoire.
Alors, c'est qui ce fameux Raoul Rigaud ? Parce que, nous, on connaît les Amis de la Commune, mais les autres...
Bon, alors, c'est donc moi-même, j'ai été vérifiée dans le Métron.
Alors, le Métron, qu'est-ce que c'est que le Métron ?
Alors, c'est... peut-être que tu pourrais donner toi-même, c'est une... un recueil avec des chroniques sur la vie...
C'est une somme, au sens ancien du terme. Jean Métron est un spécialiste, il est décédé aujourd'hui, mais il était un spécialiste du mouvement ouvrier et du mouvement anarchiste, et il a fait un dictionnaire du mouvement ouvrier où nous retrouvons des centaines de noms de militants et de militantes depuis le début du mouvement ouvrier. Alors donc là, tu as été chercher dans le Métron qui est accessible gratuitement sur Internet. Et il donne une chronique, une bio un peu.
Oui, il donne une bio, alors qui est reprise en partie dans le livre de Chambaz. Mais donc j'ai appris que ce Raoul devait rentrer à Polytechnique, donc c'était une tête. Mais il a été rattrapé par l'agitation révolutionnaire dès 1865. Il fut arrêté une première fois en 1866, puis une dizaine de fois. Il a été défendu par l'avocat Gustave Chaudet, que vous devez connaître aussi, non ? Mais bon, accessoirement, il le fait fusiller sous la commune. Et ce Raoul fréquentait le salon de Nina de Villars à Montmartre, qui était la maîtresse de Charles Cros, et la femme à l'éventail dans le tableau de Manet. Alors, le Raoul a été remarqué en 1865 par Blanqui. C'était un partisan des doctrines hébertistes. Il animait un mouvement étudiant qui prônait la convergence avec les ouvriers. Il fut journaliste et il s'était fait une curieuse spécialité, l'étude des rouages de la police et l'établissement de dossiers de ses employés. Donc, ça va lui servir notamment sous la commune. Alors, il a essayé en 1870 d'entraîner la foule parisienne lors des funérailles de Victor Noir, mais il échoua. Et Donc, quand arrive la commune, c'est là qu'il va avoir des responsabilités. Hein. Il va être proposé pour être préfet de police, mais il n'y sera pas. Il sera délégué par le comité central pour les questions de police. Et surtout, il sera procureur de la commune de Paris. Mmh. Alors, c'était pas un tendre. Hein. Il a organisé la chasse aux otages et aux suspects. Anticlérical, il fit arrêter l'archevêque d'Arbois et près de 200 religieux, et ainsi que Chaudet, qu'il fit exécuter. Hein. Mmh. Augustin Avrial, bon, que vous devez aussi connaître.
Avrial faisait partie de la commune de Paris, et oui. Lui, effectivement, était plus modéré que Rigaud.
Oui, oui. Alors, il a critiqué cette justice expéditive, mais Rigaud a répondu qu'il ne faisait pas la justice, mais la révolution.
Hein. Voilà.
Bon, et donc le malheureux Rigaud fut arrêté le 24 mai rue Gay-Lussac et exécuté.
Sur place.
Il avait que 25 ans. Hein.
Mmh. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand on l'écoute, enfin quand on voit ce parcours très rapide, ça nous fait penser un peu à Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Enfin,
oui.
Tu vois, c'est vraiment cette sensibilité de très rentre dedans, et c'était un peu le propre des blanquistes aussi, non pas de faire que du rentre dedans, mais d'être impliqué sur des préfectures de police, justice, etc. Ouais. Mmh. Alors, revenons au livre, là.
Oui, alors oui, juste une précision, lui, il meurt à 25 ans, alors que Renoir mourra à 78 ans.
Ben, oui.
Bon, c'est l'histoire de deux rencontres entre ces deux hommes, Renoir et Raoul, donc Rigaud. Renoir, la première rencontre a lieu dans la forêt de Fontainebleau, parce que Raoul se cache, il est poursuivi par la police. Donc Renoir le voit de dos, d'où le titre La peau du dos. Il lui prête une blouse de peintre pour le cacher, c'est la blouse de son ami Basile. Et ils vont passer quelques jours ensemble à évoquer le passé, à se promener sur le chemin au Merle. Une seconde rencontre aura lieu à la préfecture de police le 22 mars 1871 sur la terrasse des Feuillants. Auguste était en train de peindre sans se soucier de l'histoire de la peinture ni de l'histoire tout court, parce que Auguste Renoir, contrairement à Courbet, n'était pas très impliqué quand même dans la commune. Et puis donc une cantinière de passage le voit et considère que c'est un espion. Donc il est arrêté, il est conduit à la préfecture de police rue de Jérusalem, et il découvre que le nouveau chef de la police n'est autre que Raoul Rigaud, qui va s'empresser de le libérer. Donc voilà l'histoire. Mais c'est plutôt cette histoire en elle-même n'est pas extraordinaire, mais c'est plutôt l'ambiance du livre.
Oui.
On a des accents un peu de Jules Vallès, ou plus récemment d'Éric Vuillard, son livre là sur la Révolution française. Bon, c'est plein de vie, de gavrocherie, mais aussi de références à l'art. Alors c'est enlevé, on se balade dans Paris, on rentre dans les musées, on trinque à la sociale, on chante la canaille, on mange de la soupe au perroquet, on va au théâtre des lassements comiques. Je ne savais même pas que ça existait. Je ne sais pas si tu as connu ça. on rencontre donc Courbet, Verlaine, mais aussi le peuple des métiers de Paris, les typographes, les relieurs, les ferblantiers.
D'accord.
Enfin, bref, on ne s'ennuie pas.
Bon. Donc, les relieurs, c'est Nathalie Lemel, Varlin, etc.
Oui, donc ça tombe bien pour aujourd'hui.
On est très bien.
Alors, le thème.
Tu nous rappelles le titre, l'auteur, le titre, l'éditeur?
Alors, c'est Bernard Chambaz, La peau du dos, aux éditions du Sous-sol.
Voilà. Et c'est sorti en août 2022.
Oui.
La prochaine fois, c'est un livre, La société des belles personnes.
Oui, je vais parler de l'Égypte. Comme je reviens d'un voyage en Égypte, j'en profite aussi pour parler de ce que j'aime.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est Stock en 2022. Et je ferai un mot aussi sur les livres au Caire, parce qu'il y a un livre qui vient de paraître, La librairie du Caire, de Nadia Wassef, qui montre que, hélas, les librairies disparaissent au Caire.
D'accord, très bien.
Voilà.
Eh bien, écoute, on se retrouve dans 15 jours pour parler de ces deux livres. Merci Dominique,
allez,
à bientôt.
Bonsoir.
Alors chers amis, ben voilà, quelques livres auxquels nous tenions, que nous souhaitions vous présenter, et on souhaitait partager ce plaisir, cet intérêt. N'oubliez surtout pas l'exposition Barvalo, vous allez savoir, hein, que exposition qui a lieu en ce moment au Mucem, il faut vraiment y aller. C'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Rendez-vous le mercredi 14 juin 2023. Nous recevrons Nathalie Coily, commissaire de la très belle exposition imprimée L'Europe de Gutenberg, exposition qui a lieu sur le site François Mitterrand de la BNF et son très beau catalogue. L'imprimerie, au fil des pages, on ne pouvait pas manquer et vous admirerez, je l'espère, le catalogue. Vous vous régalerez, c'est garanti. D'ici là, bonne lecture et l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite toujours ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré. À bientôt et au plaisir de partager.
Avec la peur qui tend la patte, le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles qui tombe froide sur la dalle. Et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'il n'en peut être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître.
Se baigner, Marabout a mangé les beignets, Mogambo fait des baisers sucrés, Amina se cache dans ses bras, son mari convole en Gambie. Petit Saï Saï ce Mogambo, petit filou ce beau mari. Petit Saï Saï ce Mogambo, petit filou ce beau mari. Petit Saï Saï, ce Mogambo, petit filou, ce beau mari.
Petit Saï Saï, ce Mogambo, petit filou, ce beau mari.
Petit Saï Saï, ce Mogambo, petit filou, ce beau mari.
Petit Saï Saï, ce Mogambo, petit filou. Ce beau mari.
femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres
sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Ces femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous, 21e émission de cette année 2023, émission féministe et anarchiste, pour combattre patriarcat, capitalisme, religion, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes Libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et nous sommes avec Sylvie à la régie. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène.
Voilà, l'émission c'est bien sûr tous les mercredis, entre 18h30 et 20h30, depuis 1986. Et pour nous suivre, on peut aller sur le blog émission trait d'union femmes libres. blogspot.com. On peut donc ainsi réécouter les émissions, avoir le programme, mais on peut aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Alors, 4 temps dans cette émission: féminicide par compagnon ou ex, la tribune libre de Marie-Jo, les femmes qui ont lutté contre l'esclavage. Le 3e temps, ça sera le journal d'Hélène Baer, écrit entre 1942 et 1944 par une étudiante juive parisienne qui fut déportée en mars 1944 et décédée en avril 1945, une semaine avant que le camp ne soit libéré. Et puis, 4e temps, des communiqués, des informations, des rendez-vous. Donc, vous avez le programme et on peut commencer avec la rubrique « Féminicide par compagnon ou ex ».
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
de Tunisie. En Tunisie, une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son
le
père.
Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au Pakistan.
Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses 2 enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix, un homme mis en accusation pour l'assassinat
le
de...
Le corps d'une Allemande vient d'être
ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces crimes machistes. Reconnaissons le féminicide.
Alors, 42, c'est le chiffre recensé dans les médias, sur Internet, des féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France depuis le début de l'année 2023. Et c'est un chiffre à minima. De nombreuses affaires non comptabilisées sont en surveillance et subissent l'omerta des parquets. Ce sont des féminicides conjugaux perpétrés par des hommes frustrés qui pensent détenir un permis de tuer. Ce sont des assassinats systémiques dont l'origine se trouve au cœur de notre société, dans l'éducation patriarcale qui est donnée aux hommes et qui les autorise.